appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit ce lundi horrifié par les révélations récentes de marchés aux esclaves en Libye, jugeant que ceux qui en sont à l'origine pourraient être traduits en justice pour des possibles crimes contre l'humanité. Rappelons que la semaine dernière, un documentaire choc de la chaîne de télévision américaine CNN avait révélé l'existence d'un marché aux esclaves près de Tripoli, vivement dénoncé en Afrique et en Europe. Pour mettre fin à cette situation, plusieurs observateurs estiment qu'il revient aux gouvernements africains de mettre en place de meilleures politiques d'encadrement des jeunes dans leurs pays respectifs. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-4969 et 0997-06-4969 pour intervenir en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nico Kalambayi est à la réalisation de ce magazine, mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Et Pierrot Elamegi vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rappelons que depuis l'année 2016, près de 300 000 personnes ont traversé la Méditerranée à partir de la Libye vers l'Europe à la recherche de meilleures conditions de vie. Une situation qui devient alarmante et catastrophique avec cette dénonciation de vente de personnes sur les marchés d'esclaves par des passeurs. L'Union européenne a tenté plusieurs fois d'avoir un accord avec la Libye sur la gestion de cette question de migrants. Mais rappelons quand même que la Libye aujourd'hui est en proie à des violences entre des fractions des groupes armés ainsi que le gouvernement reconnu par la communauté internationale, ça devient aussi très difficile de pouvoir gérer la question. Professeur Emmanuel Banuessize, merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour professeur.
Bonjour Elamegi, bonjour les auditeurs de Radio Capi.
On sait que les Africains ont toujours cherché à rejoindre l'Europe pour rechercher des meilleures conditions de vie, mais ces derniers temps, la vague de mouvements en Libye sur la Méditerranée a beaucoup augmenté. Qu'est-ce qui on peut dire qui est à la base de cette dernière vague observée?
Merci. D'abord, il faut noter que la question de la mobilité des êtres humains n'est pas spécifique seulement aux Africains. Il est tout à fait naturel dans l'histoire de l'humanité que les hommes bougent, que les hommes devront toujours bouger, quelles que soient les frontières. Dans tous les cas, il n'y a pas de frontières que les hommes ne trépassent. Les hommes trépasseront toujours les frontières, qu'ils soient des frontières liquides, comme c'est le cas de la mer Méditerranée ou de l'océan Atlantique ou Pacifique. Ou que ce soit des murs en béton, comme c'est le cas entre la Palestine et l'Israël, ou entre le Mexique et les États-Unis, il n'y a aucune frontière que les hommes ne trépasseront jamais. Et les hommes bougeront toujours, pas seulement les Africains, les Asiatiques, les Européens et les Américains. Et maintenant, la question que vous posez concerne spécifiquement les Africains. Mais qu'est-ce qui explique cela? On peut constater tout simplement que depuis l'accession de nos pays aux indépendances, nos sociétés en fait sont sous la pression de la précarité, de la pauvreté et des rétrécissements des espaces de liberté. Et la précarité, les inégalités, la misère et le rétrécissement des espaces de liberté dans les pays africains, en fait, poussent beaucoup de jeunes à s'enrôler soit dans les rébellions, soit dans les organisations terroristes, en espérant finalement qu'ils vont sortir de la misère et de la précarité, et qu'ils vont en fait évoluer dans l'échelle sociale et s'insérer dans les circuits économiques. Mm-hmm. Mais d'autres jeunes finalement l'exil. Et dans les cas d'espèce, comme vous le savez, les gens cherchent à mieux vivre. Et comme l'Europe et l'Amérique notamment offrent des espaces où les gens peuvent vivre plus ou moins bien, ou en tout cas où les Africains pensent qu'ils peuvent vivre mieux, beaucoup de jeunes alors se lancent dans cette voie-là de la traversée de la Méditerranée ou de l'Atlantique à la recherche du mieux vivre. Ce qui explique finalement que les jeunes doivent, pour échapper à la, au pouvoir de la mort, parce qu'il faut dire qu'il y a, il y a une pression de pouvoir de la mort dans la plupart des pays africains, appelons ça la thanatocratie, thanatos, au sens où les Grecs appelaient cela la mort, et kratos, le pouvoir. Il y a une pression de pouvoir de mort dans la plupart des pays africains, et cela s'accompagne de misère et de précarité. Les jeunes cherchent à échapper à cela, et c'est cela qu'ils se lancent vers d'autres horizons.
Alors, quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est fait sur la Méditerranée, rappelons quand même 300 000 personnes ont traversé, plus de 5 000 morts, c'est quand même assez intéressant, et que les gens continuent toujours à partir. Mais aujourd'hui, dans les conditions où la Libye, on sait, avec ces déchirements que connaît les pays du temps de Mouammar Kadhafi, quand même la situation était gérée, on n'apprenait pas qu'il y ait ces mouvements sur la Méditerranée. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Europe, tout en acceptant d'envahir la Libye et de faire chuter le régime de Mouammar Kadhafi, pouvait déjà s'attendre à cette pression à travers ces pays pour que tous ces migrants puissent rejoindre l'Europe?
Bon, dans tous les cas, il faudrait que les auditeurs sachent que la question des trafics des êtres humains en Libye n'est pas une question nouvelle, curieusement. Mais je suis étonné qu'on en parle aujourd'hui. Les Nations Unies devaient savoir que, en fait, le pouvoir de Mouammar Kadhafi faisait déjà du chantage vis-à-vis des gouvernements occidentaux, disons qu'ils leur vendaient déjà ces noirs-là d'une certaine manière. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les gouvernements libyens bloquaient les Africains qui se lançaient à l'immigration, les bloquaient en Libye, et en contrepartie, les gouvernements libyens, pas seulement les gouvernements libyens, mais d'autres gouvernements aussi des pays du Maghreb, en fait, bloquaient les Africains, les noirs en l'occurrence, pour qu'ils ne traversent pas la Méditerranée, et en contrepartie, les pays européens du pourtour méditerranéen leur versaient des subsides financiers. Donc il y avait une sorte de commerce, mais déguisé. On bloquait les Africains là-bas, et puis on finançait ces gouvernements-là, ou en tout cas, on les soutenait pour qu'ils restent, pour que les dirigeants restent au pouvoir. Il y avait une sorte d'échange. Maintenant, quelque chose s'est passé de grave en Libye. Il y a eu cette opération militaire qui a conduit à la chute de Kadhafi et qui a introduit un chaos en Libye. Et dès lors qu'il n'y a plus vraiment de pouvoir en Libye, en fait, il n'y a plus de pouvoir capable de bloquer les Africains. Et puisqu'il n'y a plus de pouvoir capable de bloquer les Africains, ils peuvent traverser d'eux-mêmes. Mais du coup, le même commerce continue maintenant sous forme de marchés ouverts où des Libyens, des chefs de guerre libyens, et permettent de répéter une expérience douloureuse de la traite négrière, cette fois-ci, sur les pourtours de la Méditerranée. Mais ça se faisait déjà comme ça. Donc il y avait déjà une sorte de monnaie d'échange. On bloque les Africains là-bas, et en contrepartie, on soutient les régimes au pouvoir, où on leur donne des subsides financiers. Et maintenant, il y a eu un chaos, et ce chaos explique finalement que des chefs de guerre se permettent de vendre des êtres humains.
Alors, quand on revient maintenant sur le continent, hein, quand vous regardez les débats, surtout qui s'animent sur les réseaux sociaux, c'est la léthargie avec laquelle le gouvernement africain ont réagi. Il y a eu beaucoup de communiqués, rappelons aussi qu'en RDC, il y a le communiqué du ministre des Affaires étrangères, exactement, qui condamne ces actes. Beaucoup de gens sont revenus pour condamner ces actes un peu plus quand il y a eu la diffusion par CNN de ces images. Et pourtant, ces pratiques ont été instaurées depuis un moment. Est-ce qu'on peut dire qu'à un certain moment, que l'Union africaine et l'ensemble des gouvernements africains pouvaient être informés que ces pratiques existent, en attendant, bien sûr, que tout le monde se réveille quand c'est CNN qui balance les images?
C'est ce que j'ai dit, ce qui est déplorable, enfin, dans nos pays africains, disons, en ce qui concerne nos gouvernants. Bon, enfin, on a attendu que ce soit les chaînes de télévision américaines ou occidentales qui alertent l'humanité sur ces trafics humains pour qu'ils s'énervent, pour que nos dirigeants s'énervent et se contentent de communiquer. Mais en fait, ils devaient savoir que cette pratique, elle est ancienne. Elle se faisait déjà, pas seulement en Libye, comme je viens de le dire, mais dans la plupart des pays du pourtour méditerranéen, du moins dans ce qu'on appelle les pays du Maghreb, ça se faisait déjà. Et malheureusement, ça se fait dans d'autres pays bon, qui n'ont pas été dénoncés par le CNN. Mmh, bon, ensuite, voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas par les communiqués qu'on va résoudre un tel drame des jeunes et des Africains globalement. On ne doit plus se contenter de condamner. Le problème, ce n'est plus de dénoncer. Le problème, maintenant, c'est d'apporter des solutions, de faire arrêter ça. Mmh.
Voilà, on va revenir, oui. Oui, professeur, on va revenir en deuxième partie. Oui.
Dénoncer voilà. Le commerce des êtres humains. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que les États, et notamment notre pays, la République démocratique du Congo, partent de sa responsabilité primordiale de sécuriser les Congolais, les citoyens congolais, de sécuriser, non pas seulement à l'intérieur du territoire, mais aussi à l'extérieur.
Alors, professeur Emmanuel, on va revenir. Sur cette question de mesures en dernière partie du magazine pour voir quelles sont les mesures concrètes qui peuvent être mises en place pour faire face à cette situation. On va revenir à vous. On ouvre les standards avec vous, John. Vous êtes à Isiro. Bonjour, John.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
On vous écoute.
Oui, concernant ce qui se passe à Libye, vraiment je suis préoccupé aussi comme tous les autres Africains. Et puis pour moi, je dis non. Si ça, les choses continuent comme ça, je dis non, 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 non à l'esclavagisme. Parce que l'état d'esclavagisme est déjà passé. J'interpelle la communauté internationale qui nous a amené la paix, qui nous a amené la démocratie, qui nous a amené les droits de l'homme. Qui ne pousse pas seulement se limiter aux déclarations, qui pousse à agir vite, parce que ce qui se passe là-bas, je suis vraiment, ça me touche.
Alors pour vous, John, quand vous dites qu'il faut agir vite, l'action, ça doit être quoi concrètement? Que ce soit par rapport aux pays africains, que ce soit la communauté internationale, exactement, ils doivent faire quoi?
Ils doivent chercher la personne qui est plié à ce genre de marché-là. Qu'on puisse traduire la personne à justice, c'est ça vraiment la solution concrète qu'on devrait avoir au lieu de
déclaration. Voilà. Oui, et d'ailleurs même le secrétaire général l'a dit, hein, tout le monde s'en remet au gouvernement libyen qui a dit ouvrir des enquêtes. Rappelons qu'il y a la situation à Libye où c'est cette confusion de plusieurs corpuscules qui s'attaquent. Rappelons qu'il y a le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Il y a aussi notre gouvernement à Tobruk, à l'est du pays, et il y a autant de groupes armés. Mais vous souhaitez qu'il y ait une enquête et que les gens soient très traduits en justice. Merci beaucoup, John. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour à votre équipe et à l'ensemble des auditeurs de Radio Kapi.
On vous écoute, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu, parce que là, on a des petits soucis pour vous suivre. Pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu tout en intervenant, Jean-Claude?
Oui, j'ai dit, je suis horrifié parce que c'est pas en Libye. En fait, je vois aussi qu'il y a encore des marchés.
Alors, Jean-Claude, on saura peut-être, on va vous rappeler parce que là, la ligne s'est détériore, on ne sait pas aller plus loin. Alors, nous revenons à vous, professeur Emmanuel. On le disait tout à l'heure, dernièrement, l'Union européenne a tenté de chercher à conclure un accord avec la Libye sur le modèle de l'accord avec la Turquie pour la gestion de ces migrants. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, mais c'est avec quel interlocuteur? Parce qu'on sait qu'il y a le gouvernement qui est à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, il y a le Parlement aussi qui siège à Tobruk, mais d'un côté, il y a aussi tous ces corpuscules armés, mais qui, la plupart des cas, ils contrôlent en principe ce trafic et ces mouvements sur la Méditerranée. Et aujourd'hui, la difficulté pour l'Union européenne, c'est de savoir avec qui négocier, parce que la plupart de ceux qui gèrent ces trafics, ce sont les groupes armés. Et ça devient difficile de pouvoir négocier avec eux sur cette question de l'immigration, professeur.
Bon, enfin, la solution doit être trouvée à plusieurs paliers. Je venais de l'intervention de l'OTAN en Libye a créé un chaos là-bas. Ça, c'est une évidence. Donc, en liquidant Kadhafi, en liquidant les régimes Kadhafi, finalement, on a liquidé l'État en Libye. Il faut rapidement s'investir dans le sens de reconstruire l'État en Libye. Et en reconstruisant l'État en Libye, ça signifie qu'il faut mettre en place des institutions légitimes, il faut mettre en place des dirigeants légitimes qui permettent pratiquement de gérer d'abord la société libyenne et finalement d'une certaine manière de contrôler la bande aérienne, parce que non seulement que cette bande-là est devenue incontrôlée, il y a trafic d'armes là-bas, c'est devenu un nid de terroristes, et qui vont en fait dans tous les sens jusqu'en Afrique centrale. Comme vous le savez, les armes circulent à partir de cet État libyen jusqu'en Afrique centrale. Et même les candidats à l'immigration profitent précisément de cette vacuité de l'État, de cette absence de l'État en Libye pour entrer dans les zones poreuses et espérer traverser. Mais en fait, ils refont l'expérience douloureuse de la traite négrière. Et donc, ils sont pris dans les raies du capitalisme transgressif qui transforme les êtres humains en objets, en marchandises. Bon. Donc ça, c'est une chose. Il faut construire un État en Libye. Et ça ne doit pas être seulement la tâche des Libyens. Ça doit être une responsabilité morale des Nations Unies, mais également de l'Union Européenne et surtout de l'Union Africaine. Parce que si vraiment l'Union Africaine veut encore paraître crédible aux yeux des Africains aujourd'hui et de la jeunesse africaine, c'est qu'elle doit rapidement s'investir pour reconstruire un État en Libye. Et en reconstruisant un État en Libye, évidemment, mettre rapidement fin à cette pratique qui déshumanise l'Africain. Et en déshumanisant l'Africain, déshumanise l'être humain tout entier. Je crois que l'Union africaine doit s'investir davantage. Si on voit par exemple comment l'Union africaine s'est investie rapidement pour tenter de sauver Mugabe, ils ont dépêché avec, je ne sais pas quelle célérité, un émissaire auprès de Washington pour tenter de sauver Mugabe. Si vous avez investi le même effort pour reconstruire un État en Libye, je crois qu'on aurait déjà mis fin à tout cela, à cette pratique-là.
Merci.
Il faut faire ça. Ça, c'est déjà à ce niveau-là. Puis, il y a un autre palier maintenant. Chaque pays africain doit repenser la politique à l'intérieur de ses frontières. Et repenser la politique ici, c'est au double sens. C'est-à-dire, il faut repenser la cité comme l'ensemble des êtres humains qui se regroupent sous le règne d'une loi en vue d'un intérêt général, mais aussi il faut repenser la politique au sens de la politeia, c'est-à-dire redéfinir ce qu'être citoyen dans son pays. Qu'est-ce que ça implique être citoyen congolais aujourd'hui, être citoyen burundais, être citoyen rwandais ou être citoyen sud-africain ou malien, et ainsi de suite. Cela doit impliquer qu'on redéfinisse les modalités de la participation du citoyen à la res publica, à la chose publique et à l'exercice de la liberté politique.
Merci, voilà.
Va alors
voilà.
Permettre aux jeunes de rester dans leur pays.
Dans leur pays,
de
voilà.
Travailler là-bas et d'avoir des chances et des opportunités là-bas.
Ok, Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour également à tous ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce moment.
On vous écoute, Pacifique.
Oui, cette situation, Pierrot, c'est une situation de honte. Vous voyez, en ce 21e siècle, que l'Afrique reconnaisse encore des choses comme ça, ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Vous devez retenir une chose, Pierrot, que la plupart des Maghrébins, donc, ils ne se considèrent pas réellement comme étant des Africains. Et tous ceux qui sont en train de subir toutes ces atrocités-là, ce sont des gens qui viennent de l'Afrique noire. Alors, les seigneurs de guerre se trouvent et le moyen le plus efficace pour se faire de l'argent afin de financer leur mouvement. Et tout ceci, il faut commencer d'abord par mettre ça dans les dos de Sarkozy, l'ancien président français. Qui est à la base de ça? Nous n'avons jamais vécu tout ceci en Libye quand c'était encore Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi avait le contrôle. Vous avez vu, la Libye s'est développée même. Il n'y avait jamais eu toutes ces choses-là. Alors, lui, Sarkozy, doit répondre également parce que c'est lui qui est à la base de ceci. Deuxième élément, il faut mettre ça au dos de chefs d'États africains. Regardez de la manière dont ils sont en train de réagir. Ce n'est pas de cette manière-là qu'ils pouvaient réagir. Parce que ça, c'est déjà sur l'échiquier international. Je crois que le professeur qui est là ne pourra pas me contredire. Ça constitue un crime contre l'humanité, Pierrot. Oui, aujourd'hui qu'on vende quelqu'un d'autre qui vient, il vend l'autre. Il le vend, c'est lui qui a l'acheteur là. Que va-t-il faire avec la personne achetée? Peut aussi les décapiter, peut aussi faire de tout ce qu'il veut, des abus sexuels et tout ça. Ce n'est pas, c'est inadmissible. Aujourd'hui, pourquoi la population
pas, c'est la honte de dire non, non, l'âge que j'ai ici, dois-je rester ici encore? Je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas quoi que ce soit. Je voudrais aussi mélanger dans tout, dans ceci ou de cela, advienne que pourra. Mais les chefs d'État qui sont en Afrique, qui sont en train de bien manger, qui servent les membres de leur clan correctement, ils ont des moyens, ils ont de l'argent, ils sont aussi à la base de toutes ces choses. Ils sont à la base. Parce que si la distribution était équitable au niveau de l'Afrique, avec tout ce que l'Afrique a comme potentialité, mais les Africains ne pouvaient pas aller chercher ailleurs. Mm-hmm. C'est très grave. Moi, dans mon mémoire, de fin d'études à son temps, à l'époque de Mobutu, j'avais parlé sur la dégradation de l'environnement en Afrique subsaharienne qui a causé une nouvelle classification des réfugiés qu'on appelle les réfugiés écologiques. Vous voyez, même Bernard Kouchner l'avait dit, tous ces réfugiés écologiques-là, ils allaient chercher mieux ailleurs et on ne les acceptait pas. Vous voyez, pourquoi? Parce que le gouvernement africain recevait de l'argent, recevait qu'on vienne jeter des matières toxiques, moyennant de l'argent, mais cet argent ne servait à rien. C'est comme ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons des problèmes. Il y a des gens qui partent en Libye pour traverser tout ça. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas bonne.
Donc, et d'ailleurs, oui. et vous l'avez dit, Pacifique, comme vous l'avez dit, il faut agir d'abord du côté de la Libye, ça c'est la condamnation, il faut des enquêtes, s'il y a des gens qui doivent être arrêtés pour ces crimes, il faut qu'ils soient arrêtés. Mais le problème aujourd'hui, c'est la responsabilité, comme le professeur le disait, de l'Union africaine, mais des pays africains. On a vu aujourd'hui en RDC l'engouement avec lequel beaucoup de gens se sont présentés dans le cybercafé pour jouer la DV Loterie pour obtenir la carte verte d'immigration américaine. Tout cela, ça montre qu'à un certain moment, il y a ces cris de désespoir. Parce qu'il y a plusieurs Somaliens qui se retrouvent en Libye, beaucoup de Ouest-Africains. D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, la Côte d'Ivoire a envoyé un avion pour rapatrier ses ressortissants qui s'est retrouvé en Libye. Alors ça, il y a un problème de responsabilité des gouvernements africains dans la gestion de leurs ressources qui puissent permettre à ce que ces jeunes aient quand même un espoir de pouvoir rester sur le continent. Merci beaucoup, Pacifique Arsène. Vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour la parole donnée. Moi, je crois que je vais parler plus pour les relations qui existent entre les Occidentaux et les Africains. Moi, à mon avis, il faut voir cette histoire dans son ampleur. Depuis quand ça a commencé? Depuis que les Occidentaux, les pays de l'Est de l'Asie, se sont retrouvés dans une compétition de terres. Alors, la terre qu'ils ont trouvée, qui pouvait facilement exploiter l'être humain, c'était l'Afrique. Et de là, ils ont installé des systèmes de gouvernance. C'est ce que j'appelle, par exemple, le système de gouvernance de l'époque coloniale. Donc, pour cette époque-là, c'était exploiter l'Afrique et l'être humain africain en profondeur pour leur bénéfice. Et ils ont placé en Afrique toute une politique, toute une stratégie qui va au-delà des siècles. En conséquence, l'Afrique aujourd'hui est gouvernée par les mercenaires des Occidentaux. Qui place nos chefs d'État? Qui démantèle nos gouvernements? Ce sont les Occidentaux. Ils sont en train d'armer les chefs de guerre. Ce sont les Occidentaux. Donc, le crime profite aux Occidentaux. Nous, Africains, nous devons prendre garde et comprendre de quoi il s'agit exactement. C'est un problème de société très sérieux où le grain a été planté depuis des siècles. Donc, la gouvernance actuelle des Africains, ils doivent comprendre que aujourd'hui, l'Occident n'est plus le milieu où on pouvait crier à l'ancien temps que c'était le paradis terrestre. Voyez par exemple, l'Occident, les Amériques, les nazis et les pays industrialisés, aujourd'hui, ils sont dans une vie terrible. Ils sont pollués complètement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils se préparent pour venir habiter l'Afrique? Ils vont déplacer l'homme africain vers le pays déjà pollué pour qu'eux, à leur tour, en mettant leurs mercenaires, ils vont profiter de l'Afrique. Donc, l'Africain doit ouvrir son œil. Moi, Arsène, je parle juste pour la connaissance que j'ai et je me mets à émettre mes avis pour faire un petit effort, tant que petit, mais contribuer pour que nous ne soyons pas complexés devant les Occidentaux. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Arsène. 081-890-49-69 pour intervenir en direct.
Vous êtes une femme leader? Vous connaissez une femme leader?
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmesleadersrdc@gmail.com.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Professeur Emmanuel, nous vous gardons en ligne. Nous avons aussi en ligne Madame Monique Mukuna Mutombo. Madame, vous êtes avec nous du Ghana. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes déclarée candidate pour l'élection présidentielle en RDC et nous faisons ces débats où beaucoup d'auditeurs dénoncent les déficits des politiques à l'intérieur des pays africains pour pouvoir encadrer les jeunes. C'est comme ça qu'on assiste à ce drame sur la Méditerranée et jusqu'à cette vente aux enchères des êtres humains. Alors, d'abord, quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement en Libye?
J'aurais bien voulu condamner comme tout le monde, hein, mais excusez-moi, je vais aller droit au but, je ne suis pas habituée à gérer les conséquences. Donc c'est pour cela on aurait dû déjà commencer à condamner le fait que nos jeunes puissent quitter nos pays pour aller essayer de se retrouver ailleurs, alors que nous avons tout ce qu'il faut en Afrique pour pouvoir se développer et donner un avenir à nos jeunes. Il y a des pays africains qui font un grand effort et je suis sûre que parmi ces jeunes gens qui souffrent en Libye, il y a très peu de Namibiens, il y a très peu, peut-être même pas de Botswanais, mais c'est vraiment une conséquence qui fait très mal parce que l'Afrique est en train de se retrouver des siècles en arrière au siècle de l'esclavage. Donc j'aurais bien voulu condamner, je ne condamnerai pas une conséquence, mais je condamne complètement la cause qui est la cause africaine même de leadership et la cause de nous tous qui acceptons que nous puissions encore garder ces leaderships d'une autre époque, d'un autre temps. Donc la faute est partagée avec nos leaders parce que c'est toujours facile de dire que ce sont nos leaders et nous ne réalisons pas qu'à un certain moment la responsabilité doit être partagée, chacun doit jouer, assumer cette responsabilité de voir nos frères là-bas. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi nous devons nous tous assumer? Parce que quand il y a des dirigeants, quand il y a des leaders, c'est plus facile de dire que c'est l'Occident qui les a placés ou c'est un autre pays qui les a placés. Mais quand nous regardons autour de tous nos frères, nous avons des frères. Par exemple, le cas échéant, nous allons parler de la RDC. Nous avons des frères congolais qui sont là-bas. Donc la faute est partagée et on peut se dire que non, nous ne sommes pas du parti dirigeant, nous sommes de l'opposition, mais il faut aussi regarder le leader de l'opposition que vous soutenez, si c'est un profil qui peut permettre à ce que l'Afrique de demain puisse être représentée par des vrais visionnaires, par des gens qui pensent que l'Afrique a besoin de se développer, l'Afrique a besoin de traiter avec l'Occident, avec les autres pays du monde d'égal en égal, pour que nos jeunes puissent trouver leur avenir dans nos pays. Nos jeunes doivent réaliser que la conséquence de tout ce que nous faisons au pays avec nos leaders, c'est ce qui se passe en Libye. Et si nous ne les réalisons pas, nous allons toujours trouver des boucs émissaires à notre malheur. Et nous devons, en ce moment-ci, faire l'autocritique en tant qu'Africains. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Afrique manque de dignité, pour que nous nous retrouvions à ce niveau d'être vendus comme des bêtes? Donc l'Afrique doit réaliser cela. C'est facile de parler de leaders. Mais vous, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau?
Voilà, et exactement, ça, c'est niveau là, oui.
La responsabilité doit être partagée.
Voilà, à ça, c'est niveau là, madame. Et vous, concrètement, quand vous regardez le pays comme la RDC avec toutes les potentialités, quelles pourraient être pour vous les grandes lignes aujourd'hui qui peuvent être mises en place dans notre pays d'une manière assez concrète pour pouvoir et arriver à faire bénéficier de ces ressources à cette jeunesse et la protéger ainsi contre la tentation de pouvoir traverser la Méditerranée. Concrètement, pour vous, quelles sont les actions qui doivent être menées?
La première action, excusez-moi, je vais le répéter, ce sont des élections transparentes et démocratiques. Donc ça, c'est vraiment le premier départ. Pourquoi? Parce qu'avec les élections, nous nous retrouvons avec un pays quand même digne, représenté. Et ces élections-là, je vais vous donner pour vraiment encore appuyer ce que je viens de dire. Qui est contre les élections, qui est pour ça, ce n'est pas la discussion. Mais un pays avec le même système, nous pouvons changer la tête, mais si nous gardons le système, nous nous en sortons pas. Et ceux qui paient, nous ne réalisons pas que nous ne hypothéquons pas seulement l'aujourd'hui, mais le lendemain. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, on leur a appris à ne plus argumenter politiquement, à ne plus contribuer, à insulter, à mendier, on leur fait des dons, au lieu de leur apprendre un métier. Et tout ça, ça fait partie de ces choses qui font que nous sommes en train d'hypothéquer notre avenir. La chose la plus concrète, c'est cette sensibilisation pour des élections vraiment concrètes, des élections réelles. Excusez-moi, j'aime pas parler des gens, mais je veux parler par exemple de Monsieur Nanga. Tout ce qui se passe en Libye, si les Congolais, les gens comme M. Nanga, tous ceux qui sont dans la politique, ne réalisent pas que ils ont le sang de ces gens-là, la souffrance de tous ceux qui sont en train de souffrir en Libye, parce que dans notre pays, je parlerai de la RDC parce que je suis congolaise, parce que la RDC a un système de corruption, la RDC a mis en place des systèmes de dons, donnés gratuitement aux jeunes. On leur fait pas voir que c'est le travail. C'est par le travail qu'on assure un avenir, c'est par le travail qu'on a une dignité. On leur fait des dons pour les garder encore plus pauvres, pour qu'ils puissent être dépendants des politiciens mafieux. Donc la première des choses, si nous pouvons nous tous mettre une grande pression, la CENI fait déjà un retard sur le calendrier, c'est là que nos regards doivent être tournés. La RDC est en retard et la RDC, je suis sûr que l'ambassadeur qui a été rappelé, il ne sait même pas, quelle action concrète. Pourquoi le rappeler? Parce qu'aujourd'hui, c'est au vieux et aussi de tout le monde ce qui se passe en Libye. On pouvait déjà le rappeler parce qu'il y a des Congolais là-bas, parce qu'il y a des Congolais qui cherchent un moyen d'aller en Europe, alors que nous avons un pays, la France, sur le plan de potentiel. Qu'est-ce qu'on a envie à la France? Qu'est-ce qu'on a envie à la Belgique?
Voilà. Merci beaucoup, Madame Monique Mukuna Mutombo. Vous avez insisté sur l'importance d'aller aux élections, mais faudrait-il aujourd'hui avoir un plan d'action clair? Faudrait-il aujourd'hui qu'en allant aux élections, les gens puissent avoir un projet de société clair? Et vous l'avez d'ailleurs dit, ce qu'il faut faire, c'est pas le changement d'individu, c'est le changement de système. Professeur Emmanuel Banuessis, vous avez suivi les compatriotes qui se sont exprimés, ainsi que Madame Monique Mukuna. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Avant qu'on écoute l'ingénieur Gaston de Kinshasa. Professeur Emmanuel, vous êtes avec nous?
Venu d'autre province de la République démocratique du Congo. Enfin, je reviens à ce que j'ai dit. Je crois que ce que nous devons faire maintenant en Afrique, on ne doit plus tellement dénoncer. On a déjà suffisamment de noms. Maintenant, il faut énoncer de nouvelles voies pour sortir de ce drame-là. Et comme on l'a dit ici, bon, il faut tout simplement se souvenir que c'est le capitalisme transgressif qui a inventé les nègres comme marchandises, comme biens meubles, comme objet de la quotidienneté, comme subside humain. Mais maintenant, il faut sortir de cette posture-là qui consiste à penser que l'Africain noir et que l'Africain noir ne serait pas ontologiquement identique aux autres humains dans le monde. Et finalement, puisqu'il ne serait pas ontologiquement identique aux autres humains dans le monde, on peut le considérer tout simplement comme une chair dotée d'énergie capitalisable, donc qu'il faut vendre comme objet, et ainsi de suite. Non, je pense que nos dirigeants doivent rapidement comprendre, je dis bien nos dirigeants, dans tous les pays africains sans distinction aucune,
que le drame des jeunes Africains en Libye et dans les pays du Maghreb globalement constitue l'indice majeur de la faille de la gouvernance de la bonne gouvernance dans toutes les sociétés africaines. Donc cela doit nous interpeller comme une faille de notre capacité à sécuriser nos concitoyens. Nos dirigeants doivent comprendre cela, que ce qui se joue en Libye constitue même l'indice de leur incapacité à sécuriser les concitoyens, à leur donner une vie décente, à leur offrir des opportunités, de telle sorte que finalement, plus de deux siècles après la fin officielle de la traite négrière, une expérience malheureuse du passé peut se répéter dans la vie des Africains. Et ça, nous devons les ressentir dans notre chair comme une faille de gouvernance. Au-delà des discours officiels qui consistent à faire à croire aux jeunes que nos dirigeants offrent des opportunités pour une vie meilleure aux jeunes, il n'y a pas d'opportunité qui s'offre aujourd'hui à beaucoup de jeunes en Afrique. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui s'offrent à beaucoup de jeunes en Afrique, finalement, ils tentent le tout pour le tout, jusqu'à refaire l'expérience malheureuse de la traite négrière. Mmh. Et ça doit vraiment interpeller nos dirigeants.
Exact.
Et je répète encore une fois pour finir, lorsqu'on voit comment ils se sont mobilisés au sein de l'Union africaine pour tenter de défendre un pouvoir sénile au Zimbabwe, s'ils se mobilisaient de la même manière pour construire une gouvernance démocratique, pour offrir des opportunités aux jeunes, et surtout pour reconstruire la société libyenne, je pense qu'on devrait respecter l'Union africaine et on devrait faire en sorte que l'Africain soit considéré comme un homme parmi d'autres, un homme comme les autres hommes dans le monde.
Voilà, on va revenir à vous, on va écouter ingénieur Gaston, ingénieur Valérie. Rappelons, parce qu'on est beaucoup revenu sur la question de l'occupation des jeunes, de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ça va faire une suite d'émissions demain pour parler de comment la RDC peut arriver à capitaliser la force de PME, des petites et moyennes entreprises, des micro-entreprises qui utilisent beaucoup des jeunes aujourd'hui dans notre pays. Comment on peut accélérer dans ces secteurs pour permettre à ce que les jeunes soient exactement encadrés comme il faut. Ingénieur Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Gia.
On vous écoute, c'est Pierrot, ingénieur Gaston.
Voilà. Avec le micro de la radio Capi, vous avez presque la même voix.
Vraiment.
Donc, je suis déçu. Mon point de vue, c'est je suis très déçu d'avoir suivi elle, les professeurs, et madame, et tous ceux qui sont intervenus avant moi. Mais c'est Pierrot. Je vais aborder mon intervention à quatre points. Le premier point, je me pose la question, pourquoi devons-nous aller en Europe? Vous êtes sûr qu'en Europe, il n'y a pas de chômeurs? Il n'y a pas de pauvres en Europe? Est-ce que c'est en Europe où tout le monde vit, il a une bonne vie? Nous ne devons pas envier l'Europe. Nous devons chercher à nous battre. C'est le deuxième point que moi j'aborde de ce moment. Nous devons chercher à nous battre ici sur place. Les dirigeants n'ont pas tort. Les Occidentaux n'ont pas tort, je le dis tout haut. C'est nous, le peuple africain. Je ne dis même pas les dirigeants africains. Parce qu'on ne peut pas assurer l'arbre sur lequel on est assis. Les dirigeants sont assis sur ces pouvoirs-là. Ils n'ont pas intérêt à changer les choses. C'est la population africaine. Nous devons nous battre ici avec des marches et des révoltes. Je vous donne l'exemple de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique du Sud. C'est parce que les Noirs se sont battus en Afrique du Sud. Et les choses marchent là-bas. Mais nous ne devons pas bédouiller ou parler superficiellement parlant des dirigeants. Non. Nous devons chercher à changer les choses, nous-mêmes les Africains, pour que les conditions deviennent abordables ici en Afrique et nous y resterons nous-mêmes. Et donc, moi j'interpelle le peuple africain de tous les pays, le Congo, la Libye, ce qui se passe, moi ça m'arrange. S'ils sont vendus, c'est mieux qu'ils soient vendus. Parce que quelqu'un qui estime que se battre dans son pays ne vaut pas que d'être vendu, eh bien c'est mieux pour lui d'être vendu. Nous, on n'a pas estimé que nous pouvons être vendus. Nous vivons dans le pays malgré ce qui se passe. Et nous estimons que quand le moment viendra, quand il faudra qu'on puisse conjuguer les efforts, nous constituerons une force de plus pour faire changer les forces, les choses dans le pays. Et ceux qui partent, ce sont des forces de moins. Et donc, les Africains doivent apprendre eux-mêmes à se battre. Et nous devons nous battre dans notre pays, loin des discours des dirigeants, loin aux professeurs d'interpeller les dirigeants, parce que les dirigeants ne peuvent pas changer les choses. Ça n'ira pas dans leur sens. Quand le peuple est éveillé, quand le peuple, il va réclamer ses droits. Et donc, tout dirigeant avéré, il n'a pas intérêt.
Alors, ingénieur Gaston, vous avez quand même raison de dire qu'il faut que le peuple se batte. Mais le peuple se batte, le peuple fait des marches et des pressions et des réclamations auprès des dirigeants. Au même moment, vous estimez que les dirigeants n'ont pas envie d'échanger les choses. Et pourtant, ce que le professeur dit, c'est qu'il faut faire pression, il faut s'adresser à ces dirigeants parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de mettre en place des politiques.
La meilleure pression pour moi, Pierrot, moi je parle de marche, vous avez les cas, nous allons les citer au Burkina Faso. Kampaoré est maintenant en Côte d'Ivoire, il a été chassé par le peuple. Vous avez suivi le printemps arabe. c'est le peuple, il y aura des morts. Donc les revendications ne doivent pas être orales, ce n'est pas par écrit, c'est par des forces, il y aura des morts. C'est le sang, c'est le prix à payer. Et les Africains ne veulent pas verser du sang. Ça, c'est un crime pour le peuple africain. L'essence, c'est le prix à payer. Si vous suivez aujourd'hui le diagnostic dans le monde où il y a eu le plus grand nombre de morts, ce n'est pas en Afrique, c'est en Europe. On a étudié les révolutions françaises. On a suivi la guerre de l'Angleterre avec l'Allemagne, avec le général Churchill. Des milliers de morts. C'est ça le prix à payer. Mais pourquoi nous devons nous cacher derrière les revendications écrites?
Alors pour vous, ingénieur Gaston, vous souhaitez qu'il y ait de revendications, mais on n'est pas obligé d'avoir une revendication violente pour pouvoir changer des choses. Merci beaucoup, mais quand même, vous estimez que c'est pas une question, c'est la population elle-même qui doit se prendre en charge, qui doit revendiquer. Mais rappelons quand même qu'on ne peut au même moment pas demander la revendication et souhaiter qu'il y ait le sang dans la revendication. On peut faire changer des choses sans que les gens tuent les autres. Je crois que même le principe, même c'est pourquoi on parle de marche pacifique. On peut être des milliers de personnes à marcher, à revendiquer les changements, sans pour autant qu'on puisse recourir au sang, à verser le sang comme prix à payer pour pouvoir atteindre ces changements. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous ici. Alors, vous avez suivi les uns et les autres. En bref, quelle doit être aujourd'hui notre responsabilité devant un tel drame et surtout ce qui doit être fait localement pour éviter que ces jeunes se retrouvent ainsi sur le théâtre de cette vente aux enchères et de toutes ces conditions difficiles dans lesquelles ils se retrouvent en Libye?
Merci beaucoup Pierrot. S'il faut directement répondre à vos deux questions, ce que nous devons faire, c'est de considérer ce qui est normal et consigné dans la Constitution, que le pays est une propriété du peuple et non des dirigeants. Amener les dirigeants à se réaliser qu'ils sont là parce que nous leur avons donné mandat de travailler, pas de n'importe quelle manière, nous leur avons donné et les mandats et les canevas, qui est la procédure et les objectifs, et le tout est dans la Constitution. Le peuple doit jouer son rôle de contraindre les dirigeants à rentrer dans la droite ligne des constitutions, parce que les constitutions africaines ne prévoient pas que les dirigeants fassent ce qu'ils font, mais quand ils le font, le peuple observe et finalement, on aboutit au dérèglement. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons faire, disons, c'est dit à quoi? Quelle est la solution in globo? La solution in globo, mais il n'y en a que deux. Il y a la démocratie, donc l'état des droits au sens propre avec la démocratie, et ensuite la bonne gouvernance. Parce qu'on peut avoir démocratie sans bonne gouvernance, là aussi ça ne va pas. Mais on doit avoir la démocratie et la bonne gouvernance. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que selon l'histoire, tout ceci tourne autour seulement des ressources naturelles, des ressources minières, agricoles et autres. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme à cause de ces ressources. La Bible dit, la Bible nous donne un verset que nous négligeons en disant l'argent est la racine de tous les maux. On croit que c'est un simple verset, mais ce verset dit beaucoup. Il faut voir son impact en politique. Les politiques disent que l'argent est le nerf de la guerre. Mais en disant l'argent, on ne voit pas que l'argent liquide, même les ressources, parce que c'est à partir des ressources qu'on fait l'argent. D'où nous devons insister pour qu'il y ait démocratie et bonne gouvernance. Souvenez-vous quand on rentre un peu dans l'histoire. Mais avant même de rentrer dans l'histoire, je dois vous dire que je constate à travers ce qui vient de se passer en Libye qu'il y a trois concepts qui n'ont pas disparu, mais qui n'ont fait que subir une dissimulation. C'est la traite négrière, c'est la colonisation, et c'est aussi, comment dirais-je, la traite négrière, la colonisation, le troisième pourra quand même finir. Alors, et l'indépendance. Donc, ces trois concepts n'ont pas tellement disparu, mais on les a dissimulés autrement. D'abord, au niveau de la traite négrière, mais ça c'est un exemple. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont dit que les Maghrébins nous ont toujours considérés comme des sous-hommes. Je vous l'avais dit une fois, il y a une ou deux semaines, que j'étais en formation avec les Maghrébins. Je l'ai personnellement vécu. Ce qu'eux disent là, moi je l'ai vécu. D'ailleurs, la Libye est parmi les pays de l'Afrique du Nord à connaître, à avoir fait partie de l'Empire Ottoman au Moyen-Âge. Et si vous remarquez bien, la Libye a conservé les acquis de l'Empire Ottoman, parce qu'elle a participé à la vente des armes et aussi à la formation même de certains militaires, disons, de certains putschistes en Afrique. Citons les cas de la Libéria, de la Sierra Leone. Et aujourd'hui, avec toutes ces factions-là, le terrorisme est plus développé en Libye que dans un autre pays d'Afrique. Et cela, elle a hérité cela de l'Empire Ottoman. Alors, je disais que On n'a pas encore quitté la traite négrière parce que vous en avez une preuve. On n'a pas encore quitté la colonisation. Vous savez que c'est lors de la révolution industrielle que la colonisation a pris l'ampleur parce que les industriels avaient maintenant besoin des matières premières. On a commencé avec la colonisation. Mais alors, à la Deuxième Guerre mondiale déjà, en pleine Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une décolonisation au niveau de l'Asie. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes passés à une autre guerre, qu'on appelle la guerre froide. C'est une guerre réelle, où les grandes puissances se sont partagées les pays, et ils ont commencé, mais ils ont transposé cette guerre en Afrique, où les communistes avaient aussi leurs représentants, les capitalistes aussi les leurs, donc l'Occident et l'Orient, et cette guerre-là a continué. Aujourd'hui, le terrorisme vient encore d'accentuer. On commence à se camoufler encore. Est-ce que vous savez que la CIA collabore même avec la confrérie qu'on appelle les Frères musulmans? C'est cette confrérie qui est même à la base de la création des Hamas au niveau des Palestiniens. Donc, vous comprenez que ce sont les intérêts des grandes puissances qui nous amènent à tout ceci. Au début, ils créent un fossé et après, ils ne savent pas gérer
les conséquences. Oui, mais au-delà de tout, ça, parce que... Oui, l'Afrique était bien gérée depuis tout ce temps-là. Vous l'avez dit, au-delà de toutes ces ramifications, il y a quand même cette question de la gouvernance, parce que toutes ces ramifications n'interdisent pas aux Africains de pouvoir instaurer la bonne gouvernance, ni l'état des droits, ni la gestion responsable des ressources. Au-delà de tout ça, le monde va fonctionner comme ça, avec des pôles d'intérêt, avec des guerres qui se sont succédées, chacun défend ses intérêts, mais dans la défense de ses intérêts à l'intérieur de l'État, il n'est pas interdit, et vous l'avez dit clairement, il faut la démocratie qui doit marcher avec la bonne gouvernance. C'est à ce moment que les Africains peuvent faire entendre leur voix. Mais loin de moi l'idée de m'engager dans ces débats religieux, parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'amour de l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. Je crois bien pour précision, ce qui est dit, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Merci beaucoup, ingénieur. On va vous écouter, Maître Adrien. Vous êtes à Kananga. Bonjour. Maître Adrien, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Pierrot.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, je pense que pour toute personne qui suivait la situation en Libye n'est pas surpris par ce qui se passe là-bas. Et puis vous allez vous rendre compte que la responsabilité autour de cette question reste partagée par les Africains, par la communauté internationale et aussi l'Union européenne, parce que vous allez vous rendre compte que lorsque les Libyens et les Africains qui étaient en Libye ont senti que la situation de vie était devenue compliquée, ils ont commencé à traverser donc dans des immigrations clandestines. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu donc lorsqu'on les arrêtait? Il y a ceux-là qu'on jetait donc dans des différentes mers. Et là, la communauté internationale était passive. Elle ne savait pas comment donc intervenir. Maintenant, par rapport à la responsabilité africaine, moi je pense que les gouvernements africains tout entier doivent revoir leur plan d'action. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, peu de pays seulement fait émerger tout simplement donc la jeunesse. Mais dans beaucoup de pays, y compris même notre pays, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun plan. Donc aucun mécanisme pour promouvoir la jeunesse. Lorsqu'il y a des offres à gauche, à droite, il y a toujours des conditions très difficiles là pour que la jeunesse ne puisse pas se retrouver. Et puis deuxièmement, je pense que le pays africain doit se prendre d'abord en charge, parce que s'il faisait de la gouvernance, donc de la bonne gouvernance, leur mode d'action, je pense que le peuple africain ne pouvait pas errer à gauche et à droite pour aller chercher donc un petit gagne-pain à gauche en Europe, en Occident. Et c'est ce qui fait à ce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque les gens se sentent vraiment bloqués et ils sont prêts à se livrer à n'importe quoi, même chez nous ici à Karanga. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont appris de cette information, ils m'ont dit que non, mais si ce genre de situation arrivait chez nous ici, à quoi bon de vivre dans ces conditions? Autant mieux, accepter, se faire vendre, aller ailleurs, vous serez dans de très bonnes conditions. Donc vous sentez que lorsque la population
c'est un désespoir, les gens expriment. Voilà. Merci beaucoup, Maître Adrien.
Doivent voir comment
Merci, Maître Adrien. C'est un cri de désespoir. On va vous écouter, Salomon, pour une minute pour terminer cette émission et permettre au professeur de pouvoir conclure. Salomon, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. En une minute, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Mon point de vue, c'est que nous devons arriver à étudier les causes qui fait à ce que les jeunes puissent quitter, les jeunes africains puissent quitter l'Afrique pour aller en Europe. La question que nous devons savoir, c'est que l'Europe n'est pas un paradis, là où toute chose tourne en rose, non? Mais cependant, que nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait à ce que les jeunes puissent quitter leur pays africain pour aller se réfugier en Europe. Mais cependant que les jeunes européens ne quittent pas leur pays pour venir se réfugier en Europe. Alors, j'aimerais aussi proposer quelques pistes de solutions par rapport à ça.
Rapidement, Salomon.
Oui, c'est que nous devons inculquer aux jeunes un esprit d'entrepreneuriat, que chaque Africain, que tous les jeunes puissent se prendre en charge. Ça, c'est quelques pistes de solutions et créer aussi l'emploi pour
merci.
Les jeunes.
Merci beaucoup, Salomon, parce que vous avez évoqué la question de l'entrepreneuriat et la création de l'emploi pour les jeunes. Je crois que nous allons enchaîner demain dans l'émission concernée sur effectivement la création des micro-entreprises, la création des PME, comment les jeunes peuvent être employés, comment on peut développer ces secteurs pour pouvoir les occuper. Ça sera le sujet de demain, jeudi. Alors, nous revenons à vous, professeur Emmanuel Banuessis. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en une minute et demie pour conclure cet échange?
Merci. Alors, avant de conclure en une minute et demie, je voudrais répondre rapidement à une question parce que bon, je suis professeur d'université et j'ai la responsabilité de corriger certains discours déviationnistes. Un intervenant a posé la question de savoir pourquoi les jeunes cherchent à aller en Europe, enfin, pourquoi ils cherchent à aller dans le monde. Très rapidement, je vais répondre à cette question-là. En fait, nous voulons aller dans le monde parce que le monde nous appartient. Le monde, c'est notre matrice. Nous avons une identité terrienne. Nous sommes constitués des éléments du monde. Donc, le monde, c'est notre matrice. Mais le monde, c'est aussi notre patrie. C'est notre patrie. Notre patrie, ce n'est pas seulement les Congo, ce n'est pas seulement les Kivu, ce n'est pas seulement les Katanga. Notre patrie, c'est tout le monde. Et c'est avant tout le monde, parce que c'est le monde qui est notre matrice. Et donc, puisque le monde est notre patrie et notre matrice, donc le monde, c'est notre bien commun à tous. Le monde, c'est le bien commun de tous les hommes. Et certains hommes ne peuvent pas s'approprier sur le monde et penser qu'ils ont seule la liberté de circuler, de se promener dans le monde. Les Africains aussi sont des êtres humains, ils appartiennent au monde, le monde leur appartient également. Et donc pour cela, il faut nous penser dans le monde. Nous devons agir, nous les Africains, nous devons nous penser dans le monde. Nous devons agir dans le monde et nous devons nous réaliser dans le monde. Le lien de notre accomplissement, de notre réalisation en tant qu'être humain, c'est d'abord dans le monde avant de rêver d'aller au paradis, de vivre éternellement. Voilà. D'abord, nous devons vivre dans le monde, partout
oui,
où nous pensons
et la
que nous voulons vivre. Nous devons faire un effort pour y vivre.
Oui, et en un moment,
donc, nous
ne
devons pas penser que la ségrégation et les replis sur nous-mêmes constituent la voie de notre salut. Nous devons éviter cela. Alors, maintenant...
Rapidement, là on a que 30 secondes, oui.
C'est que l'Afrique ne doit pas s'autoprovincialiser. Et du coup, il faut, comme je l'ai dit, et pour résumer, il faut qu'on réinvente la politique en Afrique. Et réinventer la politique, c'est réinventer la façon dont les hommes doivent vivre ensemble dans
l'Afrique. Merci.
Et c'est de réinventer aussi la façon dont on doit accéder aux richesses, aux biens que nous offrent nos sociétés en Afrique, que nous offrent nos pays en Afrique.
Merci.
Pas seulement pour des catégories d'individus qui s'approprient les biens publics ou qui s'approprient les biens de la terre au détriment d'une grande partie.
Merci beaucoup,
les jeunes
professeur.
Qui doivent finalement se lancer vers l'inconnu pour aller mourir comme des bêtes.
Merci beaucoup, professeur Emmanuel Banuessis, de nous avoir accordé de votre temps. Merci à tous. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Comme on a évoqué l'occupation des jeunes, c'est ainsi que nous allons enchaîner demain avec les micro-entreprises, l'entrepreneuriat, les PME, comment les encadrer, comment effectivement donner de l'emploi aux jeunes. Ça sera le sujet de demain, jeudi, dans Parole aux auditeurs à 11h, 5 minutes, heure de Kinshasa. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde, Nico Kalambay qui était à la réalisation. Et Pierrot Elamé, je vous a présenté ces magazines. On se retrouve demain. Pour le moment, nous vous souhaitons bien des bonnes choses en compagnie de Radio Kapi. Au revoir.